Et brusquement, pof, un fer à repasser.
La victoire, elle est dans la poche de Léo Marchand, de ce phénomène de la natation mondiale, de la natation française. 4, et oui, 4, le signe de la main, 4 victoires, 4 médailles d'or.
Il a une nageoire atrophiée, quand je sens qu'il a des difficultés à nager, je le laisse se reposer.
C'est même vrai ce qu'on dit, hein. Un seul être vous manque, tout est développé.
Moi, le gentil dauphin, je n'y suis pour rien.
Pas sûr, évidemment, que Julien Richard... s'extasie à ce point lors des championnats de France de natation. C'est vrai que l'ombre de Léon Marchand plane sur les championnats de France qui ont débuté hier à Montpellier. L'homme aux 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Paris a été exempté de ce rendez-vous annuel pour service rendu à la patrie. On en parlait dans cette émission. Et pour mieux se préparer aux mondiaux qui auront lieu fin juillet à Singapour, les organisateurs n'ont pas caché leur déception quand ils ont appris le passe-droit accordé au génie français. La musique qui fout les jetons. Et cette question: la natation est-elle sexy sans Léon Marchand? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Elle est beaucoup moins sexy.
C'est non donc? Oui ou non?
C'est comme tu veux.
D'accord, ben, je prends ça pour un non quand même. Sarah Pitkowski.
Je suis comme Christophe, c'est plutôt non.
Ah, plutôt non. Ouais. Marc Madio.
Oh, c'est pas plutôt, c'est non.
C'est non totalement, ok. Pascal Duprat.
Ouais, c'est carrément non.
Ok, bon, vous inquiétez pas.
On est d'accord en fait aujourd'hui. Hein. Heureusement qu'il y a eu le premier débat, on s'est rentré dans la gueule avec.
Bah non, je pensais que j'allais te faire sortir de tes gonds avec Pogba, mais t'es resté tapis dans l'ombre.
Non.
Ah oui, il y est encore dans l'ombre. Hein. sur le dossier Pogba, là, il est même sous la table. Hein. Bref, avant
il a du mal à tirer 3 heures, hein, Christophe. Là, on sent quand même.
C'est surtout un deuxième débat foot, là, ça, là, il avait entraîné la gueule.
Ah, ça l'a tué, mais. Je pensais qu'il allait exploser, mais il n'a pas explosé.
Ah, j'ai beau lui mettre du vélo et du rugby, même s'il y a un débat foot qui se cache comme ça, paf. Ah non, ça marche pas. Bref, on retrouve notre envoyé spécial à Montpellier, Julien Richard. Salut, Julien.
Salut tout le monde.
Oui, alors moi, Julien, Julien, c'est pas flipper. Hein.
Flipper Julien.
Tu fais le dauphin d'ailleurs, Julien?
Très mal.
Vas-y, essaye.
Très mal. Et mon éclaboussure, quand je fais une bombe, c'est beaucoup plus fort que ce que vous avez passé tout à l'heure.
Très bien.
Aussi.
Voilà. Alors évidemment, ce Julien, c'est le grand absent de ces championnats de France. Une absence qui a froissé l'organisation, hein, faut bien le dire.
Oui, et dans les tribunes, forcément, les spectateurs ont bien remarqué qu'il manquait une silhouette sur l'affiche de ces championnats.
Léon Marchand.
Eh oui, Léon Marchand, du coup, oui, mais j'avais pris les places avant que je vois l'annonce. Donc, du coup, j'ai été un peu déçu, mais bon.
Bon, après, hein, ça restera un bon moment, quoi qu'il arrive. Hein. Il y a toujours d'autres nageurs à regarder, d'autres performances. Hein. Il n'y a pas que lui, en effet. Puis bon, lui, il est un niveau au-dessus des championnats de France.
Ouais, la star de la natation a demandé et obtenu une dispense pour ces championnats de France qui sert de sélection pour les championnats du monde. Le directeur technique national par intérim qui dure d'ailleurs, Denis Auguin.
Ce sont des choix de raison et stratégiques pour permettre à Léon d'aller jusqu'aux prochains Jeux Olympiques. Et ça, c'est notre priorité. Quand on a un athlète comme ça, sans pour autant tout accepter de façon désordonnée, ce qui n'est pas du tout le cas, l'idée, c'est vraiment de construire avec lui la capacité d'être de nouveau le meilleur nageur du monde.
Alors sportivement, en fait, cette décision, elle fait pas vraiment débat au bord du bassin. C'est peut-être plus dans l'ambiance générale de la compétition que son absence se voit. Johan Ndoye-Brouard, son coéquipier du relais 4x100 mètres 4 nages, médaillé de bronze à Paris.
Forcément, ça attire plus de gens quand il y a Léon. S'il y a plus de gens, plus d'ambiance, plus de stress, ça peut-être un peu galvaniser certaines personnes. Donc je pense qu'au niveau de l'ambiance, du public, ouais, il y a peut-être un truc qui change. Plus il y a de gens, mieux c'est. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu aux Jeux Olympiques. Donc ça aurait pu être un peu mieux...
Et c'est effectivement la conséquence majeure de l'absence de Léon Marchand. Les organisateurs avaient même prévu d'installer des tribunes supplémentaires face à l'effet Marchand pour passer de 1000 à 2000 spectateurs par jour, avant donc de se raviser. Philippe Jamet, président du club de Montpellier et co-organisateur.
On va être à moins 30, moins 40% en billetterie. On va finir entre moins 50 000 et moins 70 000 euros sur un budget global de 340 000 euros. Oui, conséquent quand même. Oui. On a plus de difficultés à faire venir des gens qui ne sont pas forcément du milieu de la natation. Si on avait eu notre superstar à Montpellier, il y a des gens qui seraient venus juste parce que ça leur aurait permis de voir de près la cinquième personnalité préférée des Français. Et malheureusement pour tous les autres nageurs, parce qu'ils mériteraient qu'on vienne les voir nager eux aussi. On a un plateau incroyable. Je trouve ça dommage que les gens ne viennent pas les voir et n'en aient que pour Léon.
Et hier, cette petite musique lancinante de sans Léon, moins de billetterie, ça commençait sérieusement à bourdonner aux oreilles de ses proches. Écoutez, le directeur général du TOEC, donc de Toulouse, le club de Léon Marchand, Michel Coloma.
Ça commence à être un peu usant d'entendre que tous les mots soient mis sur le dos de Léon. Léon, il a fait son choix de se préparer pour les champions du monde dans les meilleures conditions possibles. Et on sera bien content au bout du compte qu'il soit champion du monde, espérons-le cet été. Quand Léon est là, il y a du monde. Quand Léon n'est pas là, il y a un peu moins de monde. Mais n'empêche que quand au Stade Toulousain, Dupont n'est pas en train de jouer un match du Stade Toulousain, le Stade Toulousain fait quand même ça le comble, donc on peut se poser, s'il n'y a pas d'autres questions à se poser que celle-là, quoi. Voilà, et si le mal ne vient pas d'ailleurs. Et Léon, il a fait ce choix-là, il a fait ce choix-là. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas y en vouloir. Il n'est pas maître de la billetterie des compétitions de Montpellier, quoi.
Voilà, et pendant ce temps-là, Austin, Texas, loin de tout ça, mais avec un œil sur les résultats de ses camarades de l'équipe de France, eh bien, Léon Marchand, il continue sa préparation pour les championnats du monde de Singapour qui auront lieu du 27 juillet au 3 août prochain.
Comme d'habitude, c'était excellent, Julien, d'avoir ce reportage et d'entendre les différentes parties hein, à propos de cette exemption et de ce forfait pour ces championnats de France de Léon Marchand. Tu restes avec nous, évidemment, pour ce débat parce qu'il s'est passé de belles choses dans la piscine de Montpellier et tu vas nous les compter dans quelques instants. Comment vous réagissez, mais GG Sarah, à ce que tu viens d'entendre, parce que c'est vrai que Léon Marchand c'est la tête de gondole, mais ça évidemment j'ai pas inventé la lune pour le dire, mais au final quand on est une superstar, une gigastar, on écrase un peu tout malgré soi, et quand on écrase tout, bah après ton sport a du mal à exister si t'es pas là.
C'est le désert hein.
Le désert peut-être pas, parce que la natation française elle a existé ces dernières années avec d'autres stars.
Mais il y en avait plein.
Oui.
En même temps.
Mais ce que je veux dire,
Bousquet,
c'était des stars.
Bernard, Muffa.
Exactement. Mais ces gens-là, ils n'ont pas gagné 5 médailles aux Jeux Olympiques. C'était des stars, mais pas des méga stars. Là, Léon Marchand, il dépasse tout ce qu'on peut penser. Léon Marchand, c'est un Mbappé, c'est un Wembanyama, c'est un Teddy Riner. C'est-à-dire qu'il porte leur discipline, mais ils portent le sport français à eux tout seuls. C'est malheureux, mais c'est normal. Même quand on entend la personne qui organise les championnats de France dire c'est dommage que on vienne pas voir les autres nageurs. Oui, mais quand tu n'as pas d'appétence à un sport, je vois pas pourquoi tu irais prendre un billet pour voir une compétition d'un championnat de France. C'est sûr que quand tu as sur l'affiche, tu as Léon Marchand. Eh ben oui, t'as envie d'aller voir le phénomène, en fait, qu'il fasse de la pétanque, là, de la natation ou quoi que ce soit. Tu viens voir le phénomène.
C'est bien là le problème.
Mais oui, c'est là le problème. Mais est-ce qu'il y a une réponse à ça ?
En fait, je pense qu'il faut scinder. Il y a deux problèmes dans cette question. Il y a que la natation en France ne prévaut qu'au travers des Jeux Olympiques et puis un peu moins des championnats du monde. Autrement, ouais. ça passionne pas.
Mais la natation existe à travers
ça
des championnats.
Ah, les championnats de France, ça passionne pas quand même.
Mais si, parce que c'est qualificatif pour quelque chose.
Et donc, si tu veux, Pascal, ensuite, c'est amplifié parce que y a tout d'un coup, voilà, qu'il y a eu l'émergence d'un phénomène. Donc, t'as l'impression que ce phénomène-là, tout le monde l'attendait au championnat de France. Et s'il était venu, peut-être que, sûrement même, l'engouement aurait été important et peut-être que les prochaines années, la natation aurait pris davantage son envol. Voilà,
mais Pascal, tu fais les championnats de France sans les faire le brin à Montpellier, ça se remplit pas plus en fait.
Ouais. Là où je suis pas d'accord avec Pascal, et c'est peut-être là-dessus que tu voulais embrayer Christophe, c'est de dire que moi j'ai souvenir de championnat de France qui était absolument hallucinant parce qu'on s'attendait pour une microseconde de savoir qui allait pouvoir se qualifier. Il y en avait qu'un qualifié, les minima hyper difficiles.
Mais il y avait un grand frisson au championnat de France parce que les championnats de France étaient reliés aux compétitions supérieures qui étaient les championnats du monde aux Jeux Olympiques.
C'est le cas.
Et aujourd'hui c'est plus le cas.
Si on marche, il est pas là.
Si.
Tu gagnes ta place pour les mondiaux de Singapour parce que tu fais les championnats de France.
Mais là,
aujourd'hui, tu vas dans la rue. Alors, qui est-ce que tu vas voir aujourd'hui? Tu vas voir Maxime Grousset, c'est peut-être le plus connu.
Manodou, mais il n'est pas là.
Mais Manodou n'est pas là.
Les deux stars de natation, c'est Marchand et c'est Manodou.
C'est des noms, mais il faut suivre la natation pour les suivre, ces gens-là.
Bah écoute, Loïs Boisson, tu crois qu'on la connaissait avant le début de Roland-Garros ou non?
Je veux dire,
il suffit d'un exploit dans une compétition pour que d'un seul coup,
ton nom... Oui, mais ces gens-là dont je te parle vont pas faire un exploit.
Si Grousset est champion du monde à Singapour l'été prochain, il deviendra une star. Et tu crois que les championnats du monde de judo, ça passionne les foules en ce moment?
Il
y a ni Riner, il y a ni Agbenyénou. Et ben c'est pareil.
Et je pense que ça va être pas une médaille. Ce sont des sports olympiques. C'est là où on les touche.
Tous un sujet qui est le mal-être et la continuité de certains sports au lendemain des JO. Là, on l'a lu dans l'équipe il y a quelques jours. Il y avait un article sur les trois coureurs qui ont fait le BMX, qui ont fait les trois médailles du BMX. Et ils expliquaient leur situation et leur devenir après JO. Et là, on touche aux limites de certains sports olympiques qui sont extrêmement axés sur les JO.
Et en plus,
comme la natation, comme le BMX ou comme d'autres sports. Et la natation souffre de sa surexposition, peut-être quelque part, des JO. En natation, il y a une seule échéance, c'est les JO. Là, dans d'autres sports, on est.
Et je vais vous dire un autre truc, c'est que ces petits sports, parce que ce sont des petits sports.
Oui, mais c'est des grands sports olympiques.
Existent, c'est des grands sports, mais ce sont des petits sports médiatiques. Ces sports-là existaient, mais quand tu rajoutes, Pascal, tu vois où je veux en venir,
ouais,
quand
tu rajoutes
une compétition supérieure qui évidemment prend une ampleur médiatique excellente et écrase le reste, tu vas sûrement pas parler des championnats de France de natation quand t'as le PSG qui joue à l'Atlético Madrid dans une compétition à 100 millions d'euros. Donc évidemment, c'est exponentiel aujourd'hui. Les sports les plus médiatiques prennent de plus en plus de place, valent de plus en plus d'argent et par conséquent écrase les autres.
Et puis il y a une vraie concurrence entre les sports.
Et tu vas voir Marco que jusqu'au 13 juillet, si le PSG avance la compétition, le Tour de France ne va pas exister ou quasiment
pas. Moi en tout cas, quand tu as une Coupe du Monde,
j'ai déjà connu sur les années précédentes, quand tu as un Euro, une Coupe du Monde et l'équipe de France qui marche, le Tour on en parle, on nous laisse la place dans l'après-midi et ensuite laissez les gars, on prend les choses en main et on fait les choses sérieuses.
Je voudrais faire évoluer le débat juste et revenir aussi sur ce qui s'est passé sur cette exemption. Alors évidemment pour la billetterie c'est moins bon, c'est moins de recettes pour ces championnats de France. Pour les organisateurs c'est aussi un petit peu la soupe à la grimace. Et revenir tout de même, on entendait le coach de Toulouse, évidemment il ne faut pas tout mettre sur le dos de Léon Marchand, il n'est pas responsable de tous les maux de la natation parce que lui il a fait son parcours, il a fait son tracé, tout ça. Mais tout de même, quand tu deviens une icône, je reviens là-dessus, c'est ma marotte, mais je sais qu'on n'était pas d'accord il y a un mois dessus. Mais quand
tu
on devient
un côté exemplaire,
quand on devient une icône, est-ce que quelque part, vous le savez aussi bien que moi, on le dit souvent, et à un moment donné, tu t'appartiens plus. Donc les championnats de France pour faire vivre ton sport, comme le font vivre les frères Lebrun, c'est un peu le devoir d'y être. Mais je vous remets ça sur le tapis. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi.
Je pense qu'il y serait allé si ça n'avait pas mis en péril sa préparation des championnats du monde. Peut-être qu'il y serait allé.
Reprendre plus tôt, ou en tout cas, il aurait dû prendre sur son repos à lui pour les championnats de France.
Il s'entraîne pas en France. Il a une vie en dehors de la France. Il a tout un schéma d'entraînement. Il vient une fois par an dans notre pays. On est très content de l'avoir de nationalité française. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment un nageur français? Mais c'est un nageur qui est formé aux États-Unis, Sarah. Mais oui, Cocorico, on est content.
Il a appris à nager en France.
Attendez, il y a Julien Richard qui va intervenir.
Il a passé un an aux États-Unis, il est parti.
Il
est
formé en France.
Ouais.
Exactement.
Il est devenu performant aux États-Unis.
Il est allé chercher son diplôme en France aux États-Unis.
Il était déjà finaliste aux Jeux Olympiques. Il était déjà finaliste et même quatrième
en 2021
aux Jeux Olympiques, alors qu'il s'entraînait à Toulouse. Et il a évidemment progressé en étant aux États-Unis. Mais c'est quand même un nageur qui est largement formé en France dans un des clubs formateurs les plus performants d'ailleurs en France, les Dauphins du Touareg.
Je sais qu'on en a souvent parlé avec Julien Richard de ce débat, et je sais qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord dessus sur le côté le devoir d'exemplarité. Alors j'entends que c'est pour une année. J'entends c'est une année particulière. C'est après les JO, donc pour service rendu, on fait ça. Je trouve juste que. Attention la Fédé, parce qu'on ouvre, on met le doigt sur quelque chose alors que c'était normalement indispensable de participer à ça pour se qualifier. Attention au prochain qui va gagner deux médailles aux Jeux Olympiques, qui ne disent pas, attendez, ça ne fasse pas jurisprudence.
Mais qu'il gagne les deux médailles.
C'est compréhensible dans la piscine qu'il peut se le permettre pour lui.
Pascal.
Non mais c'est compréhensible parce que, comme tu l'as dit, c'est une année post-Jeux Olympiques. Mais si l'année prochaine, il avait encore un passe-droit, ça serait plutôt difficilement compréhensible. Et là, on pourrait dire que le devoir d'exemplarité n'est pas respecté. Voilà, donc on l'attend aussi. Et on a envie de voir notre champion.
Et s'il dit à la Fédération française de natation, OK, vous voulez que je vienne chercher ma qualif au championnat de France, non, j'ai d'autres priorités. Et qu'on se retrouve sans Léon au championnat du monde ou au championnat d'Europe l'année prochaine, on va dire quoi? Non, on va baisser notre froc, de toute façon. On est obligé. Quand t'as un champion comme ça, je suis désolé, tu te fais tout petit parce qu'il représente ton sport. Et donc, malheureusement.
A contrario, Si effectivement il n'est pas sélectionné, il se met une épine dans le pied aussi, parce que les compétitions pour Léon Marchand, ce sont les championnats du monde et ce sont les Jeux Olympiques. C'est pas un sport individuel où si tu dépends pas de ta fédération, tu peux aller t'inscrire à un tournoi de golf, tu peux aller t'inscrire à un tournoi de tennis. Là, c'est lui qui va aussi amputer sa propre carrière si l'année prochaine on lui dit si tu viens pas faire les championnats de France, tu feras pas les mondiaux. Il a besoin aussi de concourir et d'aller gagner des titres. Donc c'est
pas tout à fait pareil. Je pense qu'on a plus besoin de lui que lui a besoin de la Fédération française.
Bah, il est passé au-delà de la natation, Léon Marchand, quand même. Nicolas est avec nous au 32-16, il veut réagir à notre débat. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Bonjour.
On t'écoute
bonjour,
attentivement, Nicolas.
Bonjour, je voulais intervenir, je suis président de club de natation dans les Alpes-Maritimes, et là, aujourd'hui, je suis en compétition dans un autre département, à Digne-les-Bains, et j'écoutais attentivement, j'ai beaucoup d'avis, sur le plateau qui sont, on peut être d'accord et pas d'accord. En gros, nous, on va dire à la base de la natation, les bénévoles, les présidents, les petits moyens clubs, en fait, nos enfants, c'est eux qui nous donnent le là de cette histoire, en fait. Et là, par exemple, ce matin, entre deux nages, ils vont sur le, et les championnats de France qui ont commencé, ils vont sur le live, en fait, et ils vont voir qu'est-ce qu'a fait Maxime Grousset, qu'est-ce qu'a fait Henri Brouard, qu'est-ce qu'a fait Néwen Tomac, tous ces gens qui côtoient Léon Marchand en équipe de France et qui étaient au JO. Mmh. Et en fait, c'est regrettable qu'ils ne soient pas là. Mais en fait, je pense que dans le monde de la natation, en tout cas nous, il y a tellement d'énormes nageurs au championnat de France actuellement. Alors bien sûr, il n'y a pas Léon Marchand, mais il y a tellement de gros nageurs. Je peux vous dire qu'ils les suivent. Et
oui, vous parlez des licenciés de natation, des gens qui font de la natation.
Oui, mais c'est un regard important.
Oui, mais c'est pas
le grand public, je veux dire.
J'entends bien qu'il y a un côté financier, un côté sponsoring, un côté. Non, il y aura moins de places vendues, il y aura moins d'audience télé, moins d'audience radio, tout ça, je l'entends. Mais. Enfin, ça serait dénigrer et ne pas respecter les nageurs qui sont actuellement au championnat de France. Et je peux vous dire qu'il y a des énormes nageurs français.
C'est le système médiatique qui est comme ça, malheureusement. Ça,
je l'entends bien. Mais Léon Marchand aux États-Unis, comme a dit quelqu'un sur votre plateau, il vient une fois par an en France. Entre guillemets, son emploi du temps est timé à la minute. Tout ça fait que c'est nous qui l'avons rendu aussi star, aussi nous, le monde de la natation, les médias.
Oui, il s'est rendu tout seul, hein.
Oui, mais on l'a élevé aussi au titre de français préféré.
Il a été formé.
Mais ce que je veux dire, c'est que son emploi du temps timé à la minute, il peut quand même avoir une dérogation pour ne pas venir. Enfin, moi, je me dis que dans son emploi, il passe aussi un diplôme, j'ai vu, universitaire de pilote d'avion, tout ça. Sa vie est rythmée complètement différemment d'un autre nageur français qui s'entraînera à l'INSEP.
Ça va pas aller forcément. Là-dessus, Nicolas, de toute façon, les GG sont plutôt d'accord avec toi, mais cette histoire de pilote d'avion, c'est pas un argument qui va faire mouche pour moi, parce que justement, je comprends encore moins. Mais bon, ça, c'est autre chose. Merci, Nicolas, d'avoir été avec nous et de nous avoir donné ton avis de licencié et d'être dans le monde comme ça de la natation. Rapidement, Julien Richard. Tout de même, oui, Léon Marchand, ok, mais c'est vrai que par exemple, Maxime Grousset a performé.
Il a battu le record de France du 50 mètres papillon. Alors, à une époque, on se dit 50 mètres papillon, ok, ouais, super. Mais pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, ça va rentrer pour la première fois au programme des Jeux, le 50 mètres papillon. Donc, c'est plutôt pas mal, deuxième performance mondiale de l'année. Et puis, on a des duels. C'est aussi ça qui faisait l'intérêt de ces sélections, de ces championnats de France. C'est à l'époque du sprint où tu avais des nageurs qui pouvaient battre des records, mais aussi des nageurs qui pouvaient passer à la trappe parce qu'ils étaient quatre à pouvoir se qualifier. Il n'y a que deux places. C'est un peu ça qui manque, qui fait le sel de ces sélections. Là, on aura par exemple ce soir sur le 100 mètres d'eau la finale entre Johan Hendoy Brouard et Méwen Tomac, deux nageurs qui sont un peu revanchards comme Grousset, des jeux en individuel où ils sont un peu passés à côté, entre guillemets. En tout cas, ils n'ont pas remporté de médaille en individuel. Il y a quand même Anastasia Karpichnikova, la pauvre. Est totalement éclipsée par ce qu'a fait Léon Marchand aux Jeux Olympiques, et c'est bien normal, mais rendez-vous compte, elle est quand même vice-championne olympique du 1500 mètres derrière une légende, Katilé Deki. Donc ce qu'elle a fait, c'est un exploit monumental aux Jeux Olympiques de Paris. Elle revient là, dans cette piscine, elle est là et disponible pour le public aussi. Enfin voilà, c'est une grande nageuse de cette équipe de France. Donc il y a pas mal de beau monde, il y a des parcours aussi particuliers comme celui de Marie Wattel qui revient d'une opération des ligaments croisés. Donc il y a plein de centres d'intérêt à suivre tout au long de cette semaine, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce sel qu'on avait pu voir à Rennes, par exemple, au championnat de France, où Léon, dès qu'il faisait une apparition au bord du bassin, c'était un peu l'hystérie dans les cadres.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. Tout RMC en podcast
sur l'appli RMC.
C'est Vincent Moscato sur RMC. Je vous interromps. Car si vous vouliez écouter le Super Moscato Show, c'est pas maintenant, hein. Alors attention, je vous dis pas d'arrêter d'écouter, comprenez-moi bien. L'émission actuelle est une très bonne émission et vous avez raison de l'écouter. Mais le Super Moscato Show, c'est du lundi au vendredi de 15h à 18h. Alors à tout à l'heure, 15h sur RMC.
Trop pressé aujourd'hui ?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC. Le dossier des GG.
Ça, c'était Denis Charvet qui tentait de faire le AK.
Qui s'est coincé le doigt dans la portière.
C'est une tournée qui fait rêver tous les joueurs de rugby. Le 15 de France affrontera 3 fois la Nouvelle-Zélande début juillet à l'autre bout du monde. Mais un 15 de France largement remanié pour l'occasion. On en a souvent parlé dans cette émission. Même si 5 finalistes du top 14 ont été autorisés la semaine dernière à faire partie du voyage. La première liste pour les premiers chanceux, c'est aujourd'hui. Pierre Thévenet est avec nous, notre spécialiste rugby. Salut Pierre.
Salut Gégé.
Et nous venons justement d'avoir cette liste de 28 joueurs publiée ce matin. Alors, question très simple, qui y figure ?
Uniquement des joueurs déjà éliminés du top 14. Donc on enlève les Toulousains, les Bordelais, les Toulonnais, les Bayonnais qui ne sont pas dans cette liste. Il y a 13 nouveaux au total dans cette liste de 28 joueurs. Des noms qu'on connaît, Nolan Le Garay, Gaël Ficou, Émilien Gailleton, Mickaël Guillard, Léo Barré, des joueurs qui ont joué le dernier tournoi destination. Des jeunes à fort potentiel aussi, comme le Clermontois Baptiste Jeannot, le Montpellierain Maël Moustin. Et puis des paris avec par exemple le Canadien de naissance Tyler Duguide, le Fidjien de Perpignan Olivier Verretti et Dugui Valou, qui ont tous les deux les 5 ans de résidence nécessaires. Ces 28 joueurs vont aller à Twickenham samedi prochain disputer un match amical contre l'Angleterre.
Et on en parlera dans cette émission, c'est le 21 juin prochain. Un groupe qui va forcément, Pierre, être renforcé.
Oui, lundi prochain par des demi-finalistes perdants ou d'autres joueurs qui ont été préservés cette semaine. On pense à Pierre Bourgarit ou Paul Boudéan de La Rochelle qui ne sont pas dans cette liste-là mais qui pourraient bien partir en Nouvelle-Zélande. Ce groupe-là va partir justement en Nouvelle-Zélande et seront rejoints par quelques finalistes la semaine suivante. Tu le disais, Jean-Christophe, 5 joueurs issus des clubs finalistes auront le droit de rejoindre les Bleus. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière tournée, la dernière vraie tournée telle qu'on la connaît pour cette équipe de France. Ensuite, ces tournées vont être remplacées par la Coupe des Nations à partir de la saison prochaine. Donc, on n'aura plus ces 3 matchs sur le sol néo-zélandais.
Je te connais, tu es en train de me vendre une salade.
Je suis les 5 alors.
Je ne sais pas encore si elle est véritablement fraîche, cette salade, car beaucoup de stars, il faut bien le dire, vont manquer le rendez-vous et les rendez-vous.
Déjà, les deux ouvreurs titulaires, Romain Ntamack, qui est toujours gêné par son genou, qui va être légèrement opéré cet été, tout comme Mathieu Jalibert, qui, selon le Midi Olympique, va subir une arthroscopie du genou également. Antonio et Aldrit sont blessés aussi. Pour les autres, il y a un mot d'ordre, c'est de ne pas tirer sur la corde des joueurs qui ont déjà eu énormément de temps de jeu cette saison. Sauf exception, tous les joueurs qui ont joué plus de 2000 minutes dans la saison, c'est la recommandation de World Rugby, ne seront pas de la partie. On enlève donc Louis Bielbiaret, Damien Penaud, Maxime Lucu, Thibaut Flamand, Thomas Ramos par exemple. Il y aura peut-être une place pour Anthony Jelonche, Julien Marchand, Nicolas Deporter. Ça, ce seraient des finalistes qui pourraient rejoindre le groupe en Nouvelle-Zélande à partir du deuxième test.
Ok, tu restes avec nous évidemment pour la discussion. C'est une information importante. Toutes les informations sur cette liste sont à retrouver sur rmcsport.fr. Christophe, quand tu entends cette première liste, il faut bien le rappeler tout de même, mais tous ceux qui vont être absents, il faut espérer quoi de la tournée ?
Je sais pas. De toute façon, on s'attend à une liste de la sorte, hein. Même s'il y a eu beaucoup de lobbying pour essayer de faire participer à cette tournée les stars du 15 de France, on a bien compris que c'est trop compliqué. Il y en a certains qui sont vraiment cuits aux patates en fin de saison, comme Romain Ntamack qui doit se faire opérer, d'autres qui ont trop joué. Donc de toute manière, on ne pourra pas avoir l'équipe de rêve pour disputer cette tournée. Ce ne sera pas comme en 94 quand Philippe Saint-André et ses copains étaient allés s'imposer là-bas. Ce ne sera pas comme en 79 quand Jean-Pierre Rive aussi a été le premier capitaine à aller permettre à l'équipe de France de battre les All Blacks chez eux. Ce sera même pas comme en 2009 où Thierry Dussautoir, capitaine de l'équipe de France, était présent à Dunedin pour remporter un match. On a changé de façon de faire. La priorité, c'est le tournoi. La priorité, c'est la Coupe du Monde tous les 4 ans. Et du coup, eh bien, pour cette tournée, on prend pas les stars. Donc, on en pense qu'on en veut. Mais je pense que la plupart des grands joueurs de rugby, il leur manquera ce petit quelque chose de pas avoir été disputé, ne serait-ce qu'une seule tournée dans leur vie en Nouvelle-Zélande, au pays du rugby roi, pays du long nuage blanc, là-bas où tout le monde ne pense et ne vit que pour le rugby. eh ben, je pense que ça restera une frustration pour les Dupont, Ramos, Bielbiaré et compagnie qui connaîtront jamais ça. Voilà, c'est dommage. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer? Pierre, avant de rentrer, me dit, tu vas voir, on va aller les taper au moins une fois. J'espère, parce que c'est vrai que ce sont des jeunes en développement. C'est une équipe en développement. Elle a de la gueule. On a un super fond dans le rugby français. Mais je pense que les Néo-Zélandais qui faisaient déjà la gueule parce qu'on leur envoyait pas l'équipe type, quand ils vont voir les noms de cette liste, bah, ils vont un peu faire triste mine.
Non, mais cela dit, pour le grand public, je vois il y a des raisons de voir cette équipe de France à l'œuvre contre les Néo-Zélandais. La première, c'est ça va être l'occasion d'éprouver la nouvelle charte de bonne conduite. Donc déjà, on va voir si les joueurs français se comportent bien.
Ah ok, tu penses que c'est ça l'intérêt de la tournée?
Non, ça peut l'être. La deuxième, désolé, mais contre les Néo-Zélandais, c'est jamais neutre. Un test match contre eux, donc et en plus de surcroît, comme il y a beaucoup de joueurs blessés et beaucoup de joueurs qui vont être dispensés, eh bien c'est l'occasion, comme il le fait très bien pour Fabien Galthié, de faire vivre cette équipe de France et de tester de nouveaux joueurs pour voir leurs aptitudes. Donc il y a beaucoup d'intérêt en fait.
C'est un peu contraint et forcé.
Ses innombrables qualités, on peut quand même ne pas lui reprocher en plus de faire en sorte de tester des joueurs, et il va le faire. Donc ça c'est très bien aussi à ce titre-là.
Oui, voilà. Il y a plein de
raisons de se lever pour regarder les Français jouer.
Oui, après, comme le disait Christophe, historiquement, ces tournées en Nouvelle-Zélande, c'était d'aller au pays du rugby. C'est comme quand tu dis à un judoka qui va aller faire un championnat du monde au Japon. Ça fait partie de ta culture. Mais les dates que tu nous donnes, Christophe, c'est bien, mais il n'y avait pas de play-off. Il n'y avait pas de barrage et pas de play-off en 94. Donc les saisons...
Il y avait moins de matchs. Oui, il y avait
moins de matchs.
Il y avait peut-être un petit peu moins de matchs.
Donc, encore une fois, on est sur un calendrier qui se charge de plus en plus et de traverser la planète.
Il n'y avait pas plus de matchs internationaux. Hein. C'était le même nombre.
On est d'accord.
T'en avais trois en novembre, même un de moins parce que t'avais pas le tournoi destination encore.
Aujourd'hui, les joueurs ne sont disponibles. Les meilleurs Français ne sont disponibles que le week-end après les finales. Donc,
tu sais qu'à l'époque, les mecs jouaient leur finale. Les finalistes vainqueurs n'avaient même pas le temps d'aller faire la fête dans leur ville. Ils montaient dans l'avion, ils allaient faire la tournée.
Non, mais Christophe, à l'époque, ça ne tapait pas aussi fort déjà. Il n'y avait pas autant de matchs dans l'année. Non, mais oui, Bielbiaré va finir la saison. Il aura 31 matchs et 1500 minutes.
Mais alors, possible de l'envoyer en Nouvelle-Zélande. On va en Nouvelle-Zélande. On n'a qu'à aller au Japon, en Roumanie, dans les pays en développement.
Pour donner du temps de jeu et tester les futurs mecs qui joueront la prochaine Coupe du Monde.
Et c'est quand négatif, même de c'est quand même 2027, hein. C'est quand même une expérience inoubliable pour ces internationaux. Ils vont emmagasiner de l'expérience.
Sous réserve de pas prendre une razzia néo-zélandaise, parce que si tu te fais écrabouiller et que.
Qu'est-ce qu'il dit qui parce que. Non, bon, mais j'en sais rien. Mais... aujourd'hui, il y a des réservoirs, des réserves incroyables, insoupçonnées.
Oui, mais quand t'as pas l'expérience de jouer à ce niveau-là, c'est pas la même chose. Néo-zélandais.
Oui. On est supérieur à la Nouvelle-Zélande maintenant.
Marc Madio.
Non, mais pour ce qui est du réservoir, certainement.
À vous écouter, il me vient une réflexion. Depuis ce matin, on est dans ce studio. On a parlé des matchs en trop et de l'importance ou pas de la Coupe du Monde, par contre, ça choque personne. De clubs de foot. On a parlé des problèmes de la natation. On parle maintenant des problèmes du rugby. Il y a peut-être quand même une question à se poser. Est-ce qu'on ne va pas trop loin dans la surprofessionnalisation et la surfinance, comment on peut dire, finance-dépendance du sport en général? Parce que là, on est en train de s'apercevoir qu'on crée, on recrée des événements sur les événements.
Mais ça fait partie, le rugby.
Pour le cas, on en ajoute pas.
T'arrives à une situation
habituelle, ça.
Le fait d'aller en tournée en Nouvelle-Zélande, ce qui était prestigieux par le passé, ce que tu as expliqué, Christophe. Et là, on arrive dans une situation où, est-ce qu'il faut vraiment encore y aller? On y envoie avec des jeunes. Et là, j'ai écouté avec attention tout ce que tu nous as dit sur la sélection, mais c'est un charabia. Oui. Pour moi, qui ne suis pas un grand spécialiste du rugby, c'est un charabia, ce que j'ai entendu. Parce que, on peut les emmener parce qu'ils n'ont pas 2000 minutes, machin, un truc bazar. Enfin, à un moment, on est où, là? Peut-être qu'il y a une réflexion générale et globale à se poser sur la façon dont le sport va se réguler, se développer. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un match où On est dans un business plan pour tous les sports qui essayent de prendre des parts de marché sur le voisin. Moi, c'est comme ça, je crois.
Et d'ailleurs,
le
mot de la fin, Christophe. D'ailleurs, en rugby, il va y avoir une compétition. Là, c'est la fin des tournées.
C'est la dernière tournée telle qu'on la connaît. À partir de l'année prochaine, on aura la Nation Cup. Donc, il y aura 6 équipes de l'hémisphère nord, 6 équipes de l'hémisphère sud qui vont s'affronter une première fois c'est l'été, puis une deuxième fois en novembre. On va. Ouais. Faire
on
une
va essayer de
tourner en fait.
Ouais, de légiférer un peu ces tournées. Et donc, bah là, tu auras l'obligation d'envoyer quasiment l'équipe type, hein, si tu veux performer.
Ah, on l'espère, ce sera un autre débat. Ouais, exactement.
Ah, il y a un débat caché à nous vendre là. Donc,
on suivra évidemment cette tournée en Nouvelle-Zélande. Tu pars ou pas, Pierre Thévenet, en Nouvelle-Zélande?
Non.
Non, on t'envoie
je
pas.
Je reste à Paris.
Ok, bon, non, tu vas suivre
avant,
pour
en
ça.
En 94, on y allait.
C'était mieux avant.
Mais parce que tu crois que si Dupont, Ramos, Biedberré était en équipe de France, oui, et il y serait pas allé. Évidemment qu'on y sera allé. Tout est fonction, évidemment, des stars de l'équipe de France. C'est comme là, on a hésité à envoyer Julien Richard à Montpellier. Bon, il n'y a pas Léon.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. Alexa, mets RMC.
D'accord.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout, tout le temps.
Tous les soirs, entre 18h et 20h sur RMC, c'est Roten sans flamme avec Jérôme Roten.
2 heures de débat foot autour de l'actu du moment. Des invités d'exception, les analyses d'après-match, d'avant-match avec la Dream Team Foot RMC.
Et pour détendre tout ça, Julien Cazard vous livre son journal du foot à sa façon.
Roten sans flamme, du lundi au vendredi, 18h-20h sur RMC. RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC Football. L'OGC Nice lance sa campagne d'abonnement pour la saison 2025-2026. Supportez les Aiglons à l'Alliance Riviera en Coupe d'Europe et en Ligue 1. Découvrez dès maintenant toutes nos offres sur billetterie.ogcnice.com. Faites le plein d'émotions pour cette nouvelle saison de l'OGC Nice avec RMC.
Attention, même si l'UBB et le PSG sont champions d'Europe
et que c'est trop cool,
la saison n'est pas finie sur RMC.
Championnat de France de natation, championnat du monde de judo, Euro Espoir et Coupe du monde des clubs de foot, Euro Féminin et finale du championnat de France de basket, phase finale du top 14 de rugby, mais aussi les Grands Prix de Formule 1 et de MotoGP.
Sur RMC, même l'été,
le sport ne s'arrête jamais.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Le piège, un débat, vous ne maîtrisez rien, je m'occupe de tout. Mais il faut débattre, ça c'est votre rôle. Le débat caché du jour, c'est ça.
Certains enfants sont particulièrement doués.
Papier accélération, papier récemment, attention, papier qui sert.
Leur cerveau semble fonctionner différemment de la moyenne. Les enfants doués ont en commun des forces, mais aussi des fragilités.
On donne aussi à ces enfants l'étiquette de douance.
Quel est ce débat? Pas sûr que vous soyez encore sur la bonne piste.
T'as rien compris à ta prod là.
Tu nous prépares.
On ménage. Le suspense, le flou. C'est la révélation du critérium du Dauphiné. Ah. On en parlait hier dans cette émission. On vous faisait découvrir Paul Seixas, la pépite de 18 ans, plus jeune coureur de l'histoire à participer à cette course. Le Lyonnais était venu pour apprendre, sans objectif. Le voici sixième du général après avoir fait le match avec les meilleurs toute la semaine. Mais les amoureux du cyclisme ne verront pas tout de suite le coureur de Décathlon âgé 2h la mondiale, couvé par son équipe. Il ne disputera aucun grand tour cette année. Sébastien Joly, son directeur sportif.
Et au vu de ce qu'il nous a démontré sur le Tour des Alpes, il était relativement logique de le lancer dans le grand bain. Non, et c'est à 100%, il ne fera pas de grand tour cette année, il ne fera pas la Vuelta. Pour un coureur comme Paul, gardons la tête froide. Et si ça commence à s'exciter, ça ne va pas marcher.
Ça ne va pas marcher si ça commence à s'exciter, vous avez entendu. Nos génies français, Mbappé, Dupont, Wembanyama, Marchand. Faut-il protéger les prodiges? Oui ou non? Marc Madiot.
J'ai envie de dire non parce que de toute façon, ils ne sont plus protégés.
Non. Pascal Duprat.
dans un sport comme le vélo, oui.
Christophe Cessieux.
Oui, je pense que ce serait une erreur d'aligner Paul Sexas à 18 ans dans un grand tour.
Ok, oui, oui, il protégeait les prodiges. Sarah Pitkowski.
Là, tu parles tous les sports.
Je parle, on élargit le débat. Vous pouvez me parler de Sexas, mais on élargit le débat parce que j'ai la sensation
de manière générale, non. La précocité, tu sais pas parce que tu attends que ce sera meilleur après. Mais pas sur le cas de Paul Sexas, on l'a bien expliqué hier.
Les copains, un autre prodige. J'ouvre une parenthèse, on revient sur le débat caché parce que Morgan Mori nous appelle pour les mondiaux de judo, la victoire de Gaba.
Et il remporte son premier tour face au Hongrois Daniel Zeghedi face à une salle pleine. Il a éteint la salle, Johan Benjamin Gaba. D'abord un Yuko, le plus petit avantage en judo sur Kataguruma, roue autour des épaules. Il a terminé le travail en immobilisation de la belle ouvrage pour le judoka de Chili Mazarin qui se qualifie pour le deuxième tour. Ce sera face à un Kazakh tout à l'heure, catégorie moins de 73 kilos.
Parfait, merci beaucoup. À tout à l'heure, Morgan Mori. Faut-il protéger les prodiges, Marc Madio?
On parle en général dans tous les sports.
On parle en général, et tu peux évidemment cibler sur Sexas,
on peut toujours les protéger, mais de toute façon, quand on voit par exemple Mbappé, quand il a débuté à Monaco et qu'il a tout de suite été performant, qu'il est allé à la Coupe du Monde et qu'il a été champion du monde très jeune, de toute façon, il y a des choses qui sont assez inéluctables. Après, pour revenir à Sexas, oui, à la fois il faut le protéger, mais en même temps on peut pas le retenir trop longtemps.
Mais
et de toute façon, il y a aussi un autre phénomène, et là il est beaucoup plus global et général. Dans tous les sports, on est compétitif et opérationnel au plus haut niveau de plus en plus jeune dans tous les sports. Donc inéluctablement, que ce soit Sexas en cyclisme ou d'autres dans d'autres disciplines, on va forcément vers une accélération de la montée en puissance des jeunes. Aujourd'hui, un garçon qui a 18 ans, quel que soit le sport qu'il pratique, quand il arrive au haut niveau, il est beaucoup mieux formé et formaté que ne l'étaient les sportifs d'il y a 5 ou 10 ans passés.
Donc, si je cible sur Paul Sexas, à un moment donné, il ne faut pas se dire parce qu'il a 18 ans, on ne l'envoie pas sur le tour.
Non mais là attends, il y a quand même il y a un peu de marge entre dire Paul Sexas, on l'accompagne et on le gère dans le temps par rapport à un Tour de France, c'est pas la même chose que de dire on le met à un haut niveau de compétition comme il est en train de le faire en ce moment sur le Dauphiné Libéré. Il y a une marge de manœuvre qui est quand même assez importante à respecter, mais il est clair qu'un Sexas à dans 2 ans il sera sur le Tour ou sur la Vuelta.
Dans deux ans
mais oui,
non mais
C'est déjà énorme, bien gentil, toi, tu te rends compte ce que c'est qu'un
Tour de France. Non mais c'est pas aller jouer au golf là, taper la baballe. C'est 3 semaines dans l'école les plus dingues avec les efforts. Ce garçon, il a 18 balais quoi. Il sort de l'adolescence. Il est encore il est encore, t'as l'impression qu'il est pas fini.
Paris-Nice l'année prochaine, c'est sans doute, il y sera sans doute à Paris-Nice l'année prochaine. Mais il n'ira pas les courses d'une semaine. Il va y avoir une montée en puissance progressive pour lui comme pour les autres. Mais on focalise beaucoup sur Sexas, mais des Sexas dans le monde, je parle juste pour le cycliste, il y en a plusieurs aujourd'hui. Il y en a au Danemark, il y en a en Norvège, il y en a en Espagne, il y en a en Italie ou ailleurs. C'est des garçons qui ont 18-19 ans qui sont prédisposés au très haut niveau depuis un certain temps.
Mais pour Pascal autant, c'est pas le Tour de France.
Comment
Pogacar, pour autant, ils font pas le Tour de France.
On est bien d'accord.
Le cyclisme, c'est un sport particulier. Pogacar, il a gagné le Tour, il avait pas 22 ans en 2020. Donc, c'est donc le plus jeune à avoir gagné le Tour de France.
Mais au même âge que Sexas, il était junior encore. À 18 ans, il était junior. Il était 50e des championnats du monde, Pogacar, à la même époque.
Oui, mais il n'empêche que Sexas, il n'a que 18 ans.
Mais c'est ça, c'est un gamin. Là, il y a un autre exemple. On a vu Del Toro, là, qui a failli gagner le Giro. Lui aussi, il est tout jeune. Il est de 2003. Il a 21 ans. Il a disputé un premier grand tour l'année dernière, je crois. Mmh. C'était la Vuelta.
Ouais.
Et là, ils l'ont mis sur le Giro. Mais tu vois, tu as un cheminement logique.
Ça va être la même chose pour Sexas.
Bien sûr. Tu ne peux pas envoyer ces gamins au casse-pipe dans un tour aussi dur que le Tour de France, qui a non seulement au niveau physique, mais le Tour, c'est une formidable caisse de résonance. Tu as les médias qui sont là tout le temps. Le podium protocolaire, il passe des heures à répondre aux trucs.
Si on sort du cyclisme et qu'on va sur le foot avec Mbappé, il est champion du monde à quel âge?
19 ans.
Est-ce qu'il a gagné le Ballon d'Or? On lui promettait 10 ballons d'or.
Enfin, il a non, gagné
mais
d'autres choses.
Oui, mais tu vois.
J'allais rebondir. Donc,
c'est une question de sport collectif.
C'est une question de sport parce que Lamine Yamal, en Espagne, ils l'ont exposé tout de suite. Il a 17 ans.
Oui, mais c'est un sport co.
Jean-Christophe Mbappé, il a commencé en Ligue 1 à Monaco. Il avait 16 ans et demi, mais il ne jouait pas tout le temps. L'avantage des sports collectifs, c'est que tu peux.
Tu
peux le faire en 32e mi-temps.
Tu peux les mettre à dose homéopathique et puis ensuite.
Le tour, une fois que tu rentres sur le tour, t'es obligé d'aller au bout des trois semaines. Est-ce que toi, t'as pas fait une erreur l'année dernière en mettant Lenny Martinez, par exemple, au départ du tour
Tu veux qu'on ouvre le dossier
Non,
on n'a pas le temps. On est dans des choses plus complexes.
Oui, c'est parce qu'il s'en allait.
Mais ça dépend.
En fait, c'était un pari. Sa participation au tour de l'année dernière.
Attends, il commence à être langue de bois, je te connais.
Je pense que ça dépend des sports. On était en train de parler de Léon Marchand. Léon Marchand, il a fait les premiers Jeux. Il avait, il avait 18 ans quand il était aux Jeux de Tokyo.
Il a un chrono aussi. La natation, c'est simple.
Oui,
t'as beau avoir 18 ans, il y a un chrono.
Mais il n'avait pas les chronos pour faire des médailles et il s'est qualifié quand même. Donc en fait, ça dépend vraiment des sports. Dans le tennis, vous avez la jeune Mira Andreeva qui perd contre Loïse Boisson. Elle a commencé le circuit, elle avait 16 ans. Et aujourd'hui.
Lui aussi, il a commencé le circuit, il fait une course World Tour.
Elle joue les grands chemins.
Mais en matière de cyclisme, t'as des épreuves d'une journée où tu peux très bien aligner des gamins. T'as des épreuves d'une semaine où tu peux les tester. Et ensuite, t'as les monuments qui sont ces grandes courses de 3 semaines. Et le Tour de France est encore plus grand, plus important et plus sollicitant. Donc il faut y aller piano, quoi.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC.
C'est Vincent Moscato sur RMC. Je vous interromps. Car si vous vouliez écouter le Super Moscato Show, c'est pas maintenant, hein. Alors attention, je vous dis pas d'arrêter d'écouter, comprenez-moi bien. L'émission actuelle est une très bonne émission et vous avez raison de l'écouter. Mais le Super Moscato Show, c'est du lundi au vendredi de 15h à 18h. Alors à tout à l'heure, 15h sur RMC.
Cette semaine, cap sur le Salon du Bourget, le plus grand rendez-vous aéronautique et spatial au monde, avec RMC. 2300 exposants, 150 aéronefs, des shows aériens spectaculaires et des expériences immersives à partager en famille. Explorez l'espace, découvrez l'aviation de demain, plongez dans les métiers qui font décoller l'industrie et partagez la passion des femmes de l'aéro et du spatial. Journée grand public, vendredi, samedi et dimanche, infos et billetterie sur siae.fr. Le Salon du Bourget, cette semaine, avec RMC.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff. Estelle Midi.
RMC Conso.
Et aujourd'hui, Charlotte, on parle d'une grande marque française iconique qu'on connaît tous, qui a connu des difficultés récemment, mais qui reprend des couleurs et fête son anniversaire aujourd'hui.
J'ai 20 ans selon mon verre Duralex. Et vous avez quel âge?
J'adore, je dis ça. J'ai 80 ans.
Non, 80 ans, c'est l'âge de Duralex.
Ah pardon, mais attends.
Puisque c'est une édition collector. Alors c'est écrit plus petit.
80 ans.
C'est vrai. Et bien voilà, vous avez 80 ans selon votre verre Duralex.
Donc tu lui dois respect, comme on disait.
Bah oui, exactement. On l'a tous fait, ce petit jeu. En tout cas, tous ceux qui ont moins de 80 ans, puisque justement, c'est l'anniversaire de Duralex. Alors pour info, le numéro qu'il y a, et vous avez dû avoir un autre numéro que 80.
J'ai 48 en fait.
Voilà.
Et 34.
Exactement. Exactement, parce que ça va de 0 à 48. Ce numéro, il correspond en fait à l'identification des moules utilisées pour les verres, et donc il permet de garantir la traçabilité et l'authenticité des produits. La célèbre marque a inventé sa technologie de verre incassable en 1945. C'est ce qu'on appelle le verre trempé, qu'ils obtiennent en chauffant le verre à plus de 700 degrés, en le refroidissant brutalement juste après, et donc ça donne ce verre 5 fois plus résistant que du verre ordinaire, en tout cas normalement. Et d'ailleurs, Estelle, si vous voulez tester sur le sol du studio, je vous laisse la responsabilité, mais j'espère, parce que ça n'a pas cassé.
Ça plie mais ne rompt pas.
Exactement, donc vous voyez à quel point c'est résistant. Et d'ailleurs, la marque, à l'image de son matériau de fabrication, on peut dire qu'elle est une entreprise très résistante.
Oui, vous dites ça parce que c'est une entreprise qui a eu énormément de difficultés. On pensait même qu'elle allait mettre la clé sous la porte.
Elle a déposé le bilan plusieurs fois depuis sa création. Elle a eu de nombreux propriétaires différents, mais elle s'en est toujours sortie. Dernière grosse difficulté en date, c'était l'année dernière, juillet 2024. Elle frôle la liquidation judiciaire à cause notamment des coûts de l'énergie, mais aussi un manque manque de compétitivité face à la mondialisation. Et donc, finalement, ce sont des salariés qui ont sauvé leur entreprise, qui aujourd'hui sont associés, qui possèdent plus de 51% du capital, et les bénéfices sont reversés en partie aux salariés.
On sait quand même qu'il y a la concurrence des plateformes chinoises, entre autres. Comment est-ce que Duralex a fait pour relancer l'activité?
C'est vrai que la concurrence est rude, mais Duralex mise sur le fait que c'est une marque populaire qui n'est finalement pas si chère que ça, voire pas chère du tout. On trouve 6 verres pour moins de 10 euros hein, dans les premières gammes. Donc ils misent aussi sur la qualité, évidemment, mais sur aussi l'intérêt des consommateurs pour l'industrie française. C'est vrai, pourquoi faire venir des verres de Chine alors qu'on en fait des très bien à Orléans? Exactement. Et puis, au-delà de ça, ils innovent énormément en termes de stratégie marketing. Ils utilisent tout ce qui est à la mode en ce moment. Donc, par exemple, évidemment, l'e-commerce, mais aussi un pop-up store qui va ouvrir le 13 juin à Paris. Il y a le café Duralex qui a ouvert le 16 mai. Des produits dérivés avec des vêtements Duralex qui vont sortir cet été. Et même des collaborations, notamment avec un chef étoilé et un designer.
Ouais, et ils avaient aussi collaboré avec le slip français.
Aussi, c'est vrai.
Tu avais un slip et 6 verres et tu pouvais acheter un petit package. Est-ce que ça veut dire quand même que le concept store, tout ça, que Duralex devient une marque bobo?
Bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils surfent vraiment sur les tendances. Un dernier exemple qui illustre tout, je trouve, c'est un live shopping qu'ils vont organiser sur leur site internet. Donc, vous savez, le live shopping, c'est finalement à la manière des influenceurs. On se filme en train de présenter les produits pour en faire la promotion. C'est vraiment extrêmement moderne comme stratégie marketing. Mais parallèlement à ça, ils utilisent aussi un autre levier qui est assez puissant. C'est tout simplement la nostalgie. Et, oui. Et d'ailleurs, plein de marques le font en ce moment. Donc, les modèles iconiques, hein, le Picardie, c'est le fameux verre d'eau de la cantine avec le poinçon au fond. Il y a aussi le modèle Gigogne, vous savez, c'est la petite tasse en verre. Ils sont mis en avant, remis au goût du jour, et puis ils vont aussi faire, dans le même esprit un petit peu nostalgie, une vente aux enchères d'anciens bleus de travail.
Et ça marche?
Oui, en tout cas, ils avancent des chiffres prometteurs, plus 20% de croissance en 2025.
Génial.
Après, ça reste une situation qui est malgré tout délicate, hein, ils le reconnaissent eux-mêmes. Donc, il faudra confirmer ces chiffres à l'avenir. Ils vont sortir d'autres projets, ils vont se développer encore plus à l'international. C'est 60% de leur vente, l'international. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vraiment l'ambition pour y arriver.
Leur problème, c'est que les verres ne cassent pas, donc on n'est pas obligé de les changer tous les jours. Donc, évidemment...
Le taux de rachat, c'est vrai, finalement, n'est pas si intéressant que ça. Mais bon... on peut en avoir des vingtaines chez soi, et si on a beaucoup d'invités, je ne sais pas.
Et c'est toujours sympa, effectivement, de lire le petit chiffre. T'as quel âge dans le verre Duralex.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1.
Touche 1.
RMC, Charles Magnin.
On se retrouve tout à l'heure à 5h en direct pour toute l'info, toute l'actu évidemment, mais aussi de l'humour, des débats, de l'humeur. Et vous, au 32-16, toute l'équipe de Charles Matin autour de moi, Géraldine Demory, Emmanuel Lechypre, Anthony Morel. Et vous, à tout moment, rendez-vous à 5h sur RMC.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC. Vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Et on s'intéresse tout de suite à la désaffection du jour. Et c'est celle des jeunes pour les plats traditionnels. Écoutez bien ce chiffre, il est terrible. 28%, près d'un tiers des jeunes de moins de 23 ans n'aiment pas la blanquette. Alors que les plats de grand-mère sont plébiscités par les plus de 40 ans, les jeunes préfèrent les fast-foods à l'andouillette et au bœuf bourguignon. Rémi, faut-il s'inquiéter pour la cuisine de mamie?
Il faut le croire, c'est en tout cas ce que dit cette enquête du magazine Le Point. Exemple, avec la blanquette de veau, tu l'as dit dans le livre « Dans la France sous nos yeux » paru en 2021. Les auteurs indiquent que, tu l'as dit, seuls 28% des jeunes nés entre 1996 et 2002 apprécient encore ce classique de la gastronomie française. Et c'est 12 points de moins que chez les personnes nées avant 1956, qui sont encore 40% à plébisciter la blanquette de veau. Ce serait tout de même exagéré d'affirmer que les Français boudent l'ensemble de leur cuisine. 92% d'entre eux en ont une bonne opinion. Ça, c'est ce que nous dit un sondage Ipsos réalisé pour la sortie du dernier guide Michelin. Mais à chaque classement des 10 plats préférés des Français, il y a aussi régulièrement des plats comme le bœuf bourguignon, on le sait, le cassoulet, la choucroute. Ouais. Sauf que préférer ne veut pas dire forcément consommer au quotidien. Il y a les paroles et il y a les actes. Comme en amour, Estelle. Et cette tendance se vérifie dans les brasseries. On y retrouve encore les immanquables, tartare de bœuf, steak frites, mais certains plats comme l'andouillette ou le pot-au-feu se font plus rares. En revanche, et ça c'est l'un de mes combats, tu le sais, on est désormais certains d'y trouver des burgers.
Mais oui.
Les burgers présents au menu. J'ai découvert le chiffre ce matin, c'est Gira Conseil, le cabinet de conseil qu'on connaît bien, qui dit qu'aujourd'hui, il y a burgers
dans 85% des menus des 145 000 restaurants français avec service à table.
Alors, est-ce la fin de la cuisine de mamie? Fred Hermel, je sais que vous êtes très attaché.
Je résiste à croire que c'est la fin. Je pense qu'à un moment, le bon sens va finir par l'emporter. Je pense qu'à un moment, les jeunes vont goûter, ils vont se dire « Ah, c'est quand même bon. » J'y crois. Je
vois crois qu'ils vont passer 4 heures à faire un bœuf bourguignon?
Non, pas eux, mais de voir les consommer, d'aller vers des restaurants où on en fait, en disant « Tiens, c'est sympa, ça a du goût, c'est un goût qui dure longtemps. » C'est ça le truc, parce que c'est tous ces trucs rapides, là, tu manges tout de suite, voilà, et puis après ça disparaît. Ces plats où on mange lentement. Je vois l'exemple de mon neveu, il mange comme beaucoup de jeunes, hein, plein de trucs, mais il adore la cuisine de sa mère, hein, et de sa grand-mère. Hein. Et je peux dire,
sa mère et sa grand-mère savent cuisiner la blanquette, mais est-ce que lui, il le sait?
Non,
bah donc,
il ne sait pas encore cuisiner, mais le fait d'être attiré par cela,
il a 22 ans,
d'avoir un bœuf bourguignon, alors nous on est très bœuf bourguignon, et puis pot-au-feu à la maison.
Bien sûr.
Voilà, puis avec les légumes du jardin et tout, enfin tu vois, enfin c'est une tradition. Voilà, là, par exemple, il adore la langue.
Ah,
c'est pas
horrible.
Non, mais pour vous dire, la langue à la sauce blanche aux champignons, il adore la langue, la langue
bizarre,
de bœuf.
Non,
comment?
C'est bizarre quand même. Enfin, je veux dire.
Mais c'est classique à la campagne de manger la langue de bœuf.
Ah bon?
Bah oui, non, mais c'est pour vous dire qu'il y a. Bah oui, bien sûr, chez nous. Moi j'ai mangé la langue toute mon enfance.
Le poche levèche.
Je sais plus comment. Alors nous on est l'Artois, c'est les Flamands qui mangent le poche levèche. Mais voilà, donc il y a des gamins qui apprécient encore ce genre de choses. Il faut simplement leur proposer. Après c'est la facilité des parents aussi, qui ne veulent pas. On passe beaucoup moins de temps. Les parents aussi passent beaucoup moins de temps à faire à manger. Donc la responsabilité, c'est aussi des parents qui ont 40, 50 ans et qui ne font pas ce genre de plat à leurs enfants. Dans ma famille, on leur fait et ils aiment.
Anne-Sophie Saint-Père, la disparition peut-être de la cuisine de mamie, est-ce que c'est pas un petit peu à l'image de notre société, la culture de la flemme finalement, parce que c'est quand même plus simple de faire un steak haché que d'aller faire un bœuf bourguignon, quoi.
Oui, alors après moi je suis franchement pas hyper surprise quand les jeunes de moins de 23 ans disent qu'ils préfèrent un burger plutôt qu'une andouillette ou une longue sauce blanche. Par ailleurs, quand j'étais étudiante, je me rappelle pas avoir moi-même cuisiné des plats hyper compliqués. C'est par ailleurs en étudiant, quand t'es dans une chambre universitaire avec une cuisine partagée, t'as plutôt tendance à te faire des pâtes au pesto avec ton budget réduit. Donc je pense que se focaliser, voilà, les jeunes ont une alimentation qui est pas forcément excellente. Mmh. C'est une phase dans la vie. Et après, effectivement, ce qui va changer la donne, c'est ce que les parents vous ont cuisiné.
Oui.
Et après, du coup, sur ce comment... Enfin, moi, je me suis posé la question, j'adore cuisiner, mais effectivement, je pense que ce qui m'empêche de cuisiner le plus souvent, c'est le problème du temps. Et après, il y a aussi toute l'idée que les produits non transformés coûtent plus cher, et donc, du coup, on ne va pas le faire. Mais donc, voilà, peut-être qu'à un moment, les parents ont moins cuisiné parce qu'ils avaient moins le temps. On verra les impacts. Mais en tout cas, sur la phase jeune, je ne suis vraiment pas surprise qu'il y ait une petite phase malbouffe. Je pense que toutes les générations l'ont connue. Recettes de pâtes à la bouilloire de chambre étudiante.
Ah bah ça c'est sûr.
Voilà, on l'a
les bolino pour ceux de ma génération. Mais c'est quoi ton plat signature, Anne-Sophie?
Alors moi c'est pas du tout l'andouillette ou la blanquette. Parce que moi ça sera plutôt les curry. J'ai un grand-père indo-vietnamien, donc ma grand-mère était plutôt sur des curry divers et variés.
Oui, mais ça se mijote aussi. Voilà, c'est un plat qui prend du temps.
Ah non, mais ça prend du temps, et quand c'est bien fait, c'est excellent. Et par ailleurs, comme souvent c'est végétarien, ça coûte moins cher, donc c'est peut-être commencer à les cuisiner un peu plus tôt.
Jérôme Lavrieux, est-ce que ça vous étonne ces chiffres, finalement, les jeunes qui délaissent la cuisine de grand-mère?
Déjà, quand t'es jeune, t'aimes pas la cuisine que te faisaient vraiment tes parents. Ça n'empêche pas de le redécouvrir plus tard. Et ça va redevenir à la mode. N'oublions pas une chose, c'est que c'est toujours une histoire de femme, la transmission des plats dits roboratifs et familiaux. Bon. C'est que les grands-pères et les grands-mères de maintenant, ils avaient 20 ans en mai 68. Et on a un basculement. Après mai 68, la cuisine longue, familiale, etc., ça diminue vite fait après. C'est la révolution culturelle de l'époque. Moi, mon plat préféré, le plat nostalgique, c'est la blanquette de veau.
Mais oui.
Mais pas parce que ma grand-mère le faisait, elle ne le faisait pas. Pour une raison simple, c'est quand je me suis engagé très jeune en politique, dans un parti politique qui n'existe plus, qui s'appelait le RPR, à chaque fois qu'il y avait un conseil national, une convention, on avait le droit à des milliers d'assiettes de blanquettes de veau. Je ne sais pas pourquoi ils étaient branchés sur la blanquette de veau. Et ça me rappelle ma jeunesse militante.
La blanquette de veau.
Ouais. La baleine de
veau. C'était la tête de veau.
Non, Chirac, à mon avis, il a fait la connerie une fois de dire qu'il était fan de tête de veau. Ouais. Puis résultat, toute sa vie, on lui a servi de la blanquette de la tête de veau alors qu'il
en
avait. Il en pouvait plus. La Corona, je l'ai vu moi-même.
Oui.
Il crachait pas dessus. Hein.
Oui. Nous sommes avec Marie qui nous appelle de Nant-les-Pins, dans le Var. Elle est infirmière. Bonjour Marie. Est-ce que Marie est avec nous ?
Je suis avec vous.
Ah Marie, ça y est, on vous entend. Marie, vous êtes infirmière, donc on parlait de cuisine qui prend du temps il y a un instant avec Anne-Sophie Saint-Père. Mm-hmm. J'imagine qu'en tant qu'infirmière, bah, vous n'avez pas forcément le temps de cuisiner des blanquettes de veau ou des bourguignons.
Alors, en tant qu'infirmière, c'est sûr, parce que je suis infirmière de nuit. Alors, je suis un peu comme tout le monde, il y a des fois où ça va être très rapide. Mais après, j'avoue que je prends beaucoup plaisir à cuisiner dès que je peux, quand je suis en repos. Et comme je disais tout à l'heure à mon interlocuteur, j'ai hérité des vieilles cocottes, le creuset de ma grand-mère. Et je peux vous assurer
que
quand vous cuisinez là-dedans, pour rater quelque chose, il faut vraiment le vouloir. Il n'y a rien de tel d'entendre chanter les oignons que vous faites déglacer. C'est une merveille. Et pour répondre à votre collègue, je veux bien l'inviter à manger une merveilleuse blanquette de veau, parce que je la fais à merveille, je tiens ça de ma maman. Voilà. Et j'ai un petit garçon de 8 ans.
Voilà, ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous cuisinez avec lui ?
Alors, moi, je cuisine avec lui, et il y a des fois pas du tout, parce qu'il préfère être avec ses Legos, mais il est mon goûteur. Et alors, quand il me dit « Maman, t'es la meilleure cuisinière du monde
»,
mais pour moi, j'ai atteint l'Oscar. Hein. Voilà.
Ça, je comprends. Mais alors, 8 ans, juste 8 ans, il arrive à apprécier des plats comme des plats assez forts. Genre le bœuf bourguignon, c'est un plat quand même qui a beaucoup de goût. Il arrive à apprécier ça, l'andouillette, le bœuf bourguignon.
Alors, l'andouillette, pas du tout, parce que c'est encore un peu fort. Mais j'essaye de l'initier à toute cette culture française de la bonne bouffe. Il vient chez le boucher avec moi. On a un petit boucher sur Nant-les-Pins qui s'appelle Patrick. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou s'il nous écoute. Qui a de la viande, mais fantastique. Et je sais que lorsque je vais cuisiner un morceau de viande, je vais la faire les yeux fermés parce qu'elle est tout simplement d'une tendresse, c'est du beurre. Quand je fais un confit à la bière qui est mijoté au four pendant 8 heures, je peux vous assurer que mon gamin, il se régale. Voilà. Et mon mari, de surcroît. Voilà.
Mais en fait, voilà, vous continuez effectivement à initier votre fils aux traditions et aux bons petits plats de grand-mère. Merci beaucoup, merci Marie d'avoir été avec nous. Je m'embrouille parce que je n'ai pas mangé. Moi, pour l'instant, je suis un petit peu embrouillée et voilà, toutes ces idées de recettes là me montent un petit peu au nez. Adèle est avec nous. Il nous appelle de Chantilly et lui, il est restaurateur traiteur. Bonjour Adèle.
Bonjour à toute l'équipe. Bonjour.
Adèle, est-ce que ça marche, tiens, justement, dans votre restaurant, les plats traditionnels, comme ça, les plats traditionnels de grand-mère ?
Bah moi, j'en ai fait, par exemple, là, j'avais, sur la partie traiteur, j'en ai fait pour toute une équipe de jeunes qui faisaient une installation sur un terrain de concours. Ils ont adoré, j'aurais fait des blanquettes de veau, plein de plats en sauce cassoulet, ce genre de choses, et ils ont apprécié. Le seul problème, c'est que, comme d'habitude, alors, on va reprendre un peu l'actualité, mais c'est de la faute des parents, quoi. C'est les parents qui apprennent les bonnes choses aux enfants. On a une nouvelle génération de parents qui balancent des pizzas, des burgers, des sushis à leurs gosses. Et puis voilà, les parents, ils se mettent sur leur réseau. Et puis même, regardez votre sondage de tout à l'heure. Et même recevoir des invités, aujourd'hui, on a la flemme. On fait des apéros dînatoires. Même recevoir des invités, on ne prend pas le temps de faire un bon dîner et de recevoir des gens. Qu'est-ce que vous voulez transmettre et apprendre aux enfants ?
Non, mais vous avez raison.
C'est pas un apéro dînatoire. On reçoit des invités, vous dites à votre fils, à vos enfants, attends, on reçoit des invités, attends, ouvre le paquet de charcutes, coupe le saucisson en 4 morceaux, hop, mets ça, 3 points. C'est ce qu'il veut qu'il apprenne à la bonne cuisine. C'est les parents. C'est les parents qui transmettent. Hein. C'est comme ça la cuisine. Hein. C'est depuis des années, c'est de transmission en transmission. Bon, on a une nouvelle génération de parents qui préfèrent être sur les réseaux sociaux ou à la salle de sport à 21h plutôt que de faire à manger pour leurs enfants.
Oui, vous avez pas tort, Adèle. Alors après, il y a quand même le carton des bouillons chez les
c'est
jeunes.
C'est ce que j'allais dire, parce que c'est pour ça que c'est un peu faux le titre. Les bouillons, ils cartonnent. Aujourd'hui, vous faites la queue pour manger dans un bon bouillon aujourd'hui.
Mais parce que c'est pas cher.
Il y a pas mal de jeunes. Il n'y a pas que des soixantenaires.
Mais parce que c'est pas cher.
Des trentenaires, des vingtaines. Mais parce que c'est pas cher, mais parce que c'est bon. Pas cher et dégueulasse, personne n'y va. Hein. Ça, moi, en tant que restaurateur, je peux le savoir. C'est bon, tout simplement. Mais c'est des choses que les parents loupaient. Si les jeunes apprécient aller manger dans des bouillons, un, c'est pas cher. Donc, c'est-à-dire, un, que pour les parents, ce qui se tombe toujours en termes de pouvoir d'achat, cuisiner soi-même et des plats typiquement français, ça peut ne pas coûter cher. Et par contre, c'est pour ça que les bouillons, ça cartonne. Allez dans tous les bouillons à Paris, vous faites la queue une heure.
Pendant deux heures, bien sûr. Là, vous avez raison.
C'est une question de transmission et c'est de la faute des parents. Les parents, ils se dédouanent de tout aujourd'hui. L'éducation, c'est pas moi. La cuisine, c'est pas moi. Ils veulent faire quoi ? Que des photos sur Instagram et à la salle de soir ? Non, mais forcément. Et aller en week-end à Barcelone et les donner à mamie. Non, quand on est parent, il faut assumer, il y a plein de choses.
Bah merci beaucoup pour ce petit coup de gueule, Adèle. Voilà, restaurateur. C'est quoi le nom de votre restaurant à Chantilly?
Éthergie.
D'accord. Eh ben merci beaucoup Adèle d'avoir été avec nous. Des messages sur l'appli RMC Rémi.
Nombreux messages, notamment ce message de Julien qui nous dit on s'en fout de toute façon de mamie puisqu'on l'a mis à l'EHPAD.
Si les
les gens ne cuisinent plus de plats traditionnels de nos régions, c'est en premier lieu parce qu'ils ne les connaissent pas et que tu vois que le moindre restaurant préfère faire du hamburger et du steak frites plutôt qu'une gardiane, une zarzuela ou une parrillada qui sont les plats traditionnels de chez moi du côté de Palavas et de Montpellier. Il y a de quoi s'inquiéter. Après, la France change et les traditions avec. C'est comme ça, on n'y peut rien.
Et on a le classement des plats préférés des Français, Rémi.
Et ça, c'est intéressant parce qu'on a le classement à la fois de ce qui représente le mieux la cuisine française pour les Français et ce qui consomme le plus.
D'accord.
Ce qui nous représente le mieux, selon un sondage Ipsos, c'est le bœuf bourguignon, le cassoulet, la blanquette de veau.
D'accord.
La région où on cuisine le mieux, selon les Français, selon les Ipsos, c'est le Sud-Ouest.
D'accord.
Voilà. Ouais. Okay. Maintenant, il y a ce que l'on consomme le plus, en général, c'est vraiment c'est des sondages.
Pas des burgers.
Le poulet frites.
Ouais. Bah, qui est aussi un plat de grand-mère. Hein,
si... Le poulet frites et derrière la pizza.
Ah oui, là c'est évidemment c'est moins un plat de grand-mère. On est avec Sofiane qui est chef de restaurant dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Sofiane.
Bonjour. Bonjour Estelle. Bonjour à tous.
Bonjour.
Sofiane, est-ce qu'il y a des plats du style effectivement blanquette de veau, bœuf bourguignon dans votre restaurant ?